Le problème, c'est qu'en considérant que le sol est juste un support et qu'il est donc inerte, on a effectivement détruit tout ce qui faisait la richesse du sol et tous les écosystèmes autour de ce sol. On parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité, mais qui est lié à ça. Mais encore une fois, si on l'évalue à son juste coût, l'agriculture conventionnelle est beaucoup plus chère parce qu'elle a beaucoup plus d'impact négatif. Donc moi, je suis convaincu que demain, l'agroécologie sera moins onéreuse, en tout cas pas plus que du conventionnel.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études à AgroParisTech et un MBA à l'ESSEC, il devient ingénieur d'affaires chez Fleury Michon. Après un passage chez Danone, Kraft Foods et Danone Waters, il fonde en 2017 une première entreprise quittée au bout de 3 ans. Et ce, pour fonder FEV, une entreprise qui a pour mission de permettre une transition agroécologique et alimentaire respectueuse pour les hommes et l'environnement. Salut Simon,
salut.
Comment vas-tu?
Très bien, merci, et toi?
Super.
On est hyper content de t'accueillir à notre micro. Je te le disais un petit peu en off, moi là... L'agroécologie et l'agriculture, c'est un sujet qui, je sais pas si je peux dire me passionne, mais en tout cas m'intéresse plus. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est l'agroécologie?
Ouais. L'agroécologie, c'est en fait les techniques qui permettent d'utiliser les ressources d'un écosystème ou des écosystèmes, si on parle de manière générale, pour cultiver ou élever des animaux. Avec un point important, c'est tout en préservant ces mêmes ressources de l'écosystème. C'est-à-dire comment utiliser au mieux ces ressources et les préserver.
Aujourd'hui, c'est pas le cas?
Non, bah alors je vais prendre un exemple très historique. La culture sur brûlis qu'on pratique beaucoup, par exemple, en Amérique du Sud, avec les débats sur l'Amazonie. On utilise des ressources de l'écosystème, c'est en l'occurrence la forêt qu'on brûle. Ça produit un fertilisant, enfin les cendres qui vont fertiliser le sol. On cultive derrière, mais c'est du one shot, quoi. On le fait une fois, on détruit les sols et au bout de quelques années, on va plus loin. Donc on utilise pour le coup l'écosystème.
Ça a toujours été naturel de brûler, que les forêts brûlent pour se régénérer.
Ouais, pour le coup, mais c'est pas de l'agroécologie parce que du coup, c'est pas, en termes de durabilité, c'est...
Parce que c'est pas l'humain qui le fait. Ce qui compte, c'est que ce soit pas l'humain qui détruise, l'environnement.
L'enjeu, c'est est-ce que c'est pérenne ou pas? Est-ce que ça permet d'exercer une agriculture de manière pérenne et durable ou pas? Si on détruit son écosystème, c'est sûr que on n'y est pas.
Okay. Et donc, bon, là, on rentre les deux
déjà dans la technique. Ouais.
C'est quoi les fondamentaux un petit peu de l'agroécologie?
Alors là aussi, si tu veux qu'on rentre dans quelque chose de très technique, on peut. Si on parle des fondamentaux de l'agroécologie, parce que ça vient vraiment de fondamentaux de ce qu'est l'agriculture.
Alors, on peut faire quelque chose de crescendo.
Ok. Les fondamentaux de l'agroécologie, ça va être la préservation des sols. Ça, c'est relativement nouveau. C'est des connaissances qu'on n'avait pas, ne serait-ce qu'il y a 10, 15, 20 ans. Donc, préserver les sols, on se rend compte qu'en fait, il y a de la vie au-dessus du sol, mais il y a énormément de vie à l'intérieur, enfin dans le sol. Et ça, c'est vraiment critique et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans l'agroécologie. Mais on va parler aussi d'agroforesterie, donc comment on préserve... des arbres sur le lieu d'exploitation, parce que ça a beaucoup de bénéfices, et comment, d'une manière générale, on maintient une grande diversité sur l'exploitation. Il faut bannir les fermes sur lesquelles on fait de la monoculture ou du mono-élevage. Il faut, au contraire, aller vers une grande diversité qui a beaucoup de bénéfices.
Pourquoi faut faire de la diversité et pas faire du mono? Parce que pourtant, moi, je suis économiste de formation. J'ai appris la théorie des épingles quand j'étais en prépa, etc. Quand j'étais au lycée, on m'a dit on spécifie les tâches, on segmente, comme ça on gagne en productivité.
C'est tout à fait vrai. On gagne énormément en productivité, mais la contrepartie, c'est qu'on détruit son environnement et même les sols sur lesquels les sols qu'on exploite.
Moi, je suis très naïf. Pourquoi on détruit les sols?
En fait, quand tu fais de la monoculture, typiquement, prenons dans le sud-ouest le maïs. On fait que du maïs. Le maïs, il a certains besoins spécifiques en termes de minéraux, d'azote, d'eau ou autre. Et donc, tu es obligé d'orienter toute ton exploitation sur ces besoins-là au détriment de tous les autres besoins qui peuvent bénéficier au reste de l'écosystème. Donc, il n'y a que le maïs qui est privilégié. Donc, il n'y a plus rien d'autre qui ne vit sur ton site que du maïs. Et donc, tu épuises tout ton écosystème. Et
parce c'est que ton maïs prend certaines ressources et en redonne certaines.
Il n'en redonne pas parce que toi, tu prélèves ton maïs en plus. Enfin, donc, tu prélèves tout. Et donc, tu vas juste apporter ce que ton maïs prend et tout le reste, tu ne le regardes pas. Et donc, tu appauvris structurellement toute ton exploitation.
Mais si je produis du maïs, des tomates et des salades, ce qui sont sans doute un mix nul, mais on reviendra là-dessus
c'est
après.
Une vraie salade, quoi.
Si tu mixes plusieurs éléments avec du maïs, tous ces éléments, ils prennent. S'ils ne redonnent pas, ta terre, dans tous les cas, elle est...
Oui, mais tous les trois, on va avoir des besoins différents. Donc toi, tu vas être obligé, à minima, d'apporter différentes choses pour répondre aux besoins de ces trois variétés sur l'exploitation. Et donc, à minima, tu vas maintenir un peu de diversité aussi dans les apports et donc dans la possibilité de l'écosystème sur l'exploitation à vivre.
Justement, tu parles des apports. Ouais. On va vraiment dans tous les sens. Hein. Mais on va après on va rentrer un peu en profondeur dans tous ces sujets-ci. Mais tu apportes des éléments, donc je suppose de l'engrais, etc. Est-ce que ça, c'est aussi un sujet pour l'agroagriculture? Parce que pour moi, j'ai encore dans la tête toutes ces histoires avec les lobbies des engrais, etc. Et qu'il y a plein d'ammoniac dans les sols et que finalement, ça détruit encore plus et que c'est hyper mauvais pour l'environnement, pour notre santé, etc.
Oui, complètement.
Du coup, c'est un sujet aussi.
C'est un vrai sujet. En fait, l'objectif aussi de l'agroécologie est de ne plus avoir recours à ces intrants de synthèse. Parce qu'ils sont basés sur des énergies fossiles, non renouvelables. Et donc, de fait, ce n'est pas durable.
Et du coup, tu les remplaces avec quoi?
D'où la diversité. Parce que quand on parle de diversité, en fait, le but, c'est d'utiliser des plantes ou même des animaux qui vont se complémenter. Donc si on reprend notre exemple du maïs ou de céréales, tu vas aussi utiliser ce qu'on appelle par exemple des légumineuses qui vont naturellement capter de l'azote. Et l'azote, c'est ce que tu recherches principalement quand tu mets des engrais. Hein. Donc ils vont capter l'azote de l'air pour le rapporter dans le sol qui va bénéficier aux plantes que tu vas ensuite semer derrière.
Ce que tu plantes apporte bien au sol.
Dans ce cas-là, oui, ce que tu plantes appartient au sol. Mais là, quand je te parlais de diversité, je te parlais aussi pour l'agriculture conventionnelle. La diversité même en agriculture conventionnelle a un intérêt parce que tu es obligé de diversifier tes pratiques, tes modes de production et tes apports. Alors effectivement, si on se concentre sur l'agroécologie, on va pas juste faire de la diversité pour la diversité. On va faire de la diversité justement parce que certaines plantes apportent des éléments qui vont bénéficier à d'autres. Ou certains animaux qui vont, par le pâturage de couverts végétaux qui ont peu d'intérêt en tant que tels, vont ramener de l'azote, des minéraux sur le sol qui vont bénéficier à des plantes plus intéressantes pour l'alimentation.
Avant de creuser tous ces sujets un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Fève et pourquoi on parle de tout ça avec toi? Parce que là, on rentre à fond, mais je pense que ça peut être intéressant.
Oui, c'est bien de vous dire d'où je viens. Donc, Fève, donc pour ferme en vie. Donc Fève, en fait, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire, une société de l'économie sociale et solidaire qu'on a créée il y a 3 ans avec deux associés, dont la vocation est justement de promouvoir l'agroécologie et de permettre beaucoup plus d'installations de jeunes ou de moins jeunes sur des fermes conduites en agroécologie. Parce que c'est un vrai enjeu. C'est un chiffre qui circule beaucoup, mais il y a en gros la moitié des agriculteurs qui vont être très prochainement en âge de partir à la retraite. Beaucoup de fermes à reprendre, par conséquent. Et donc, une vraie opportunité pour installer une génération qui aura une autre vision de l'agriculture et d'autres pratiques. Donc, l'agroécologie.
Peut-être ce qui est important de souligner aussi là-dessus, cet épisode n'est pas sponsorisé par Fève, hein, parce qu'en général, on ne fait pas pitcher les boîtes. Mais sur ce coup, je trouve que c'est quand même important et intéressant. Et ce qui est aussi super intéressant sur ce projet-ci, c'est que vous accompagnez ces jeunes sur comment on fait l'agriculture de demain avec des bonnes pratiques qui soient à la fois... d'un point de vue environnemental et d'un point de vue business. On aura l'occasion un peu d'en reparler peut-être à la fin, mais vous les accompagner sur comment vendre et peut-être pas vendre en direct, mais aussi faire de la transformation, c'est ça?
Oui, alors c'est ça un des enjeux de l'agroécologie, du bio, enfin voilà, de toutes ces pratiques un peu vertueuses, C'est évidemment aussi l'aspect économique. Et on en parle beaucoup en ce moment, le bio. Voilà, il y a beaucoup de bio-bashing parce que ça rapporte plus, ça se vend plus. Donc, un des enjeux est de rapporter de la valeur sur ces exploitations pour montrer que le modèle est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi bénéfique pour les agriculteurs eux-mêmes, qui leur permettent de bien vivre. Donc, effectivement, on pousse beaucoup pour réintroduire de la valeur, donc capter de la valeur qui s'échappe vers l'aval, typiquement en faisant de la transformation sur la ferme, en allant plutôt vers des circuits courts, on maîtrise ces enjeux de commercialisation pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. Alors, c'est plus de complexité, plus d'investissement. Donc, c'est là qu'intervient FEV aussi. C'est que un de nos gros piliers, ou un gros levier d'action, c'est de financer l'acquisition des fermes. Donc, on a une foncière qui fait appel à de l'épargne publique. Donc, tout citoyen peut accompagner cette transition en mettant de l'argent qui va nous servir à acheter des fermes, les mettre en location aux porteurs de projets, ce qui va leur libérer de la capacité de financement pour justement investir sur cette diversification, cette intégration de transformation sur la ferme et donc, au final, l'augmentation de valeur créée sur l'exploitation.
On reviendra sur cette foncière juste après.
Pour comprendre le contexte de tout ça, tu nous parles d'épuisement des sols, justement, ce genre de phénomène-là. Ça vient de quoi concrètement ? Est-ce que ça vient de la consommation et de l'évolution aussi de la démographie mondiale ? Est-ce que ça vient de l'utilisation de tous ces produits depuis une trentaine d'années qui peuvent être nocifs ? C'est quoi un peu les grands points qui ont amené à ce nouveau mode
de production ? Je dirais le point principal, c'est que on a... depuis l'après-guerre, hein, et le fait qu'on a développé à très grande échelle les intrants de synthèse, pesticides, engrais et autres, on a considéré que le sol était juste un simple support pour l'agriculture. C'est un truc inerte, avec du sable, de l'argile, des cailloux, qui servent juste à supporter la culture. Et donc, on va lui apporter tous les éléments à cette culture dont elle a besoin, via les engrais, et les pesticides pour tuer tous les concurrents, et de l'eau, et que ça permettra de produire, et ce que tu dis un peu tout à l'heure, de se spécialiser, d'avoir des gens hyper pointus sur l'utilisation d'un tracteur, la pulvérisation de pesticides sur les champs. Et ça a été extrêmement efficace. Enfin, c'est certain, la productivité de l'agriculture et les rendements de l'agriculture ont explosé, en tout cas sur la partie occidentale du monde. Et donc, voilà, grande efficacité. Le problème, c'est qu'en considérant que le sol est juste un support et qu'il est donc inerte, on a effectivement détruit tout ce qui faisait la richesse du sol et tous les écosystèmes autour de ce sol. On parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité, mais qui est lié à ça. Parce qu'évidemment, en détruisant tout, on détruit tout.
En fait, si je comprends bien, c'est qu'on n'a pas essayé de considérer vraiment la Terre comme quelque chose de vivant et qu'on l'a juste industrialisé au même titre que ce qu'on fait avec plein d'autres types de matériaux.
Complètement, enfin non, pas tout à fait complètement. Ce que tu dis, on a voulu considérer, il n'y avait pas d'intention derrière de personne.
C'est vraiment juste.
C'est juste qu'on ne savait pas, c'est un manque de connaissances. Maintenant, aujourd'hui, on sait. Donc aujourd'hui, on peut dire que ceux qui ne veulent pas faire ça, c'est plutôt des intérêts économiques. Voilà. Oui. Mais au départ, c'était, c'était efficace, donc on l'a fait.
C'est que le driver n'était peut-être pas le même aussi quand on l'a fait. On était alimenté par les 30 glorieuses, voire un peu avant, et par le fait qu'il fallait générer de la valeur économique, parce que toujours plus de valeur économique entraîne toujours plus de confort, toujours plus de croissance, et que la croissance était maître mot. Aujourd'hui, on croit plus, il n'y a plus trop de croissance. Là, c'est un peu différent, parce qu'on est en phase de belle inflation, mais la croissance du PIB, curieux de voir ce que ça va donner en 2023, on reste sur une croissance qui est hyper faible, et du coup, la priorité change et on se rend compte que la Terre est peut-être sensible. Est-ce qu'on peut dire ce mot-ci ou pas ? L'environnement est sensible ou pas ?
Très. L'environnement est très sensible. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que même au départ, c'était pas des intérêts économiques. Je pense qu'on drivait tout ça, ces changements. C'est avant tout...
Une conception de la société ?
Même pas. C'était vraiment la nécessité de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population. Enfin, l'invention des engrais, début du... 20e siècle, c'était vraiment lié à des enjeux alimentaires parce que régulièrement on avait des famines et les gens crevaient de faim, enfin littéralement. Et donc c'était une invention extraordinaire, l'engrais. Alors c'est malheureusement du cracking du gaz naturel, donc ressources fossiles qui permettent de faire des engrais. Donc maintenant on se rend compte que on est un peu au bout du bout là-dessus, mais au départ c'était juste un enjeu vital pour les populations. Donc c'était très vertueux initialement. Après, petit à petit, effectivement, quand on a réussi à répondre aux besoins d'alimentation des populations, C'est l'intérêt économique qui a pris le pas. Tu disais productivité, rendement, voilà. Et ça, c'est plutôt après-guerre qu'on y arrivait. Et
je dirais qu'on assiste vraiment à un shift. C'est vrai que bon, on entend beaucoup parler de bio, mais parfois aussi d'une manière très marketée et marketeuse. Ouais, de toi, ce que tu vois et ce que tu entends, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les gens se tournent vers le bio, que ce soit des producteurs ou des personnes ou ce nouveau type d'agriculture?
Je dirais initialement, c'était d'abord par conviction. C'était les gens qui étaient convaincus que les pesticides et tout ce qui était de synthèse était mauvais. Donc il y avait un côté très... c'était des valeurs avant tout qui ont poussé à ça. Maintenant, plus la science avance, plus on comprend comment ça fonctionne, plus on se dit qu'il y a un intérêt au-delà juste des valeurs que ça porte, qu'il y a un vrai intérêt sanitaire, pour la santé à la fois des hommes, des animaux, des sols, à faire sans ou en tout cas avec beaucoup moins d'intrants. Et puis il y a tout cet impact climatique. Les gens commencent à se rendre compte que le climat, effectivement, on peut pas jouer avec la légère, donc il faut aller vers des pratiques.
Et qu'est-ce que tu en penses justement du marketing bio? Est-ce que pour toi on passe à côté de la conviction principale? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce qu'on en fait trop?
J'en sais rien. Moi, je serais très pragmatique là-dessus. C'est que je ne vais pas dire que la fin justifie les moyens. Ce serait pas très bienvenu. Exactement. Mais je veux dire, je comprends qu'il y ait des marketing du bio comme il y a du marketing de n'importe quoi. Donc si pour faire bien comprendre ce qu'est le bio, ce que ça peut apporter, il faut faire du marketing, faisons un peu de marketing. Moi, je serais assez pragmatique, du moment qu'on raconte pas n'importe quoi,
ouais,
et qu'on veut pas détourner des vessies pour des lanternes. Le marketing, il y en a besoin. C'est un peu notre société aime ça, valorise ça, faisons-en.
On parle d'agroécologie. Est-ce qu'il n'y a pas différentes catégories d'agroécologie ou en fait, moi, c'est un mot.
En fait, il y a pas de définition. Malheureusement, il y a pas une définition très précise. C'est aussi pour ça que nous, dans notre charte, on a mis le bio en socle, parce que le bio, au moins, il y a un label, c'est très clair, très précis, on sait de quoi on parle. L'agroécologie, on peut mettre beaucoup de choses autour. Il y en a même qui commencent à dire que certaines agro-industries, sous couvert d'agroécologie, essayent de pousser un peu leur propre agenda, parce que je vais prendre un exemple très, très concret, mais... en Amérique du Nord et du Sud, d'ailleurs, on fait depuis pas mal de temps du semi-direct. Donc, pas de labour, ce qui est d'un point de vue agroécologique est très vertueux parce qu'on préserve les sols, on préserve la vie des sols. Par définition, c'est une pratique agroécologique. Mais on le fait parce qu'on balance du Roundup à tout va pour détruire... Roundup, c'est le fameux herbicide de Monsanto.
Ah oui.
Qui est extrêmement utile en agriculture, qu'on essaie d'interdire en Europe, mais c'est pas si simple. On fait du semi-direct, mais grand renfort d'herbicides. Donc au final, si on se place d'un point de vue agroécologie global, je vais pas dire que ça n'a aucun intérêt, mais ça a relativement peu d'intérêt. Et pourtant, certains vont dire, mais si, ça c'est de l'agroécologie, c'est bien mieux que si en plus on labourait. Oui, certes, mais ça a beaucoup d'impact autre. Qui, au final, sont peut-être pas si vertueux que ça.
Est-ce que tu aurais différentes pratiques communes en agroécologie, justement, qui permettent d'aller au-delà de l'utilisation de ces fertilisants, etc.
Oui, alors, sur les engrais, il y a plusieurs choses. L'azote, on l'a dit, le principal levier, ça va être réintroduire des légumineuses dans les rotations, c'est-à-dire des plantes qui, naturellement, captent l'azote de l'air et le réintroduisent dans le sol. Ensuite, ça va être la complémentarité élevage-culture. On fait beaucoup de viande bashing. Ce que je comprends, il faut manger beaucoup moins de viande. Malgré tout, d'un point de vue agroécologique et agronomique, l'élevage peut avoir un gros intérêt. C'est que les vaches ou les moutons transforme la cellulose qui n'est pas assimilable par l'homme en viande et en même temps restitue via leur déjection, pipi, caca sur les champs, restitue de l'azote, des minéraux directement sur les champs sur lesquels ils pâturent. Donc d'un point de vue agroécologique, c'est extrêmement vertueux. Donc si on peut combiner les deux, c'est très bien pour les sols. Ensuite, on parlait d'agroforesterie. Le gros intérêt des arbres, c'est qu'ils ont un système racinaire extrêmement touffu, plongeant, et comme l'arbre est là pour des dizaines d'années, il peut aller très loin dans les sols. Donc remonter des minéraux du fond des sols, du socle rocheux des sols, vers la surface via les feuilles et la perte des feuilles sur le sol. Et donc ramener de la fertilité à ces sols de manière naturelle. Et ça, c'est un élément clé parce que autant l'azote, il y en a plein l'atmosphère, donc on peut en trouver partout. L'eau tombe naturellement sur les sols. Les minéraux, bah, il y a ce qu'il y a dans les sols et pas plus.
Est-ce que pour ça, ça peut être intéressant de mixer les animaux et l'agriculture ? De mettre des chevaux, par exemple, au milieu de pommiers
Complètement. Alors nous, plutôt que des chevaux, parce que le cheval n'a pas d'intérêt, quand on parle d'agriculture, nous, on voit aussi l'intérêt alimentaire pour l'homme. Mais complètement, les vergers, ça existait naturellement en Normandie, des vergers de pommiers avec des vaches au milieu, de tout temps, il y a eu ça. Ça disparaît aujourd'hui, mais ça existait. Et donc oui, c'est extrêmement vertueux parce que la vache pâture remet de la fertilité sur les sols. Et on a en plus des pommiers avec une durée de vie longue. Comme je disais, l'intérêt de l'agroforesterie qui va capter des minéraux en profondeur. Donc oui, ce sont des systèmes très vertueux. Et quand on parle d'agroécologie, je dirais que c'est un système type qui est hyper emblématique et hyper intéressant celui-là.
Et puis du coup, il y a une meilleure optimisation du foncier.
Complètement. On maximise. Alors là, on peut parler, on peut rentrer aussi un peu dans la technique, mais un des piliers de l'agroécologie, c'est aussi la captation du soleil. Au final, toute l'énergie sur laquelle nous, on fonctionne, qu'est-ce qu'on ingère, en définitive, elle vient du soleil. Hein. C'est la captation par les plantes de l'énergie solaire qui va nous donner, nous, notre propre énergie en définitive. Donc, l'approche systématique qu'on devra avoir sur chaque parcelle cultivée, c'est comment je maximise la captation des rayons solaires sur cette parcelle. Donc typiquement, voir des champs dénudés pendant 2-3 mois de l'année, c'est une aberration d'un point de vue agroécologique. On devrait toujours avoir un couvert végétal, soit pour une production en direct pour l'alimentation humaine, soit pour être pâturé par des animaux, peu importe, mais on devrait toujours capter les rayons du soleil sur une parcelle cultivée.
Mais tu peux toujours avoir un sol végétal lorsque tu fais l'agroécologie. Parce que par exemple, je pense si je fais des carottes ou si je fais des salades, quand j'enlève mes salades, quand j'enlève mes carottes, il y a plus rien sur le sol. Et si je laisse de l'herbe au milieu, je vais pas retrouver mes salades.
C'est une des difficultés. Alors en particulier sur le maraîchage de plein champ, c'est compliqué. Ou alors un exemple encore plus facile à comprendre, c'est sur les pommes de terre, les betteraves, tout ce qui est dans le sol. De toute façon, au moment pour récolter, il faut que je laboure tout, donc il reste un champ sans rien. Bon, donc il y a certaines cultures comme ça. De toute façon, on peut pas faire autrement. Maintenant, il y a beaucoup de cultures et beaucoup de modes de techniques agronomiques qui permettent de semer avant la récolte d'une culture principale, de semer une autre récolte qui va commencer à pousser pendant que la première finit d'arriver à une maturité. Et donc, quand je récolte ma première culture, la deuxième a déjà commencé à pousser. Typiquement, on peut faire blé-luzerne. Donc, dans une luzerne, est pour le coup une légumineuse qui va apporter de l'azote, qui va en plus pouvoir être utilisée pour alimenter des animaux, parce que c'est très riche. Quand j'ai un beau champ de luzerne, je peux semer du blé directement dans cette luzerne. Quand le blé va atteindre un certain stade de maturité, je peux faucher ma luzerne et puis laisser le blé pousser au-dessus de cette luzerne. On peut faire du pois dans du blé. Enfin, il y a plein de combinaisons de cultures qu'on peut imaginer pour ça. Et après, en maraîchage, on parle beaucoup de permaculture, mais la permaculture, c'est exactement ça. C'est comment on combine sur une même parcelle plein de végétaux différents qui ont des vitesses de maturation différentes, des vitesses de pousse différentes, pour maximiser la couverture et l'utilisation, on va dire, du sol.
C'est quelque chose qui se met à l'échelle, par exemple sur des énormes exploitations, ce type de pratique.
En fait, c'est un des gros enjeux. Est-ce que l'agroécologie va pouvoir vraiment passer à l'échelle et être vraiment productive, parce qu'au final, il faut nourrir quand même les populations. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le faire ?
Il y a des pistes de réponse là-dessus ?
Oui, parce qu'on voit qu'il y a plein d'exploitations, de grosses exploitations qui fonctionnent bien avec ces techniques-là. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que contrairement à l'agriculture conventionnelle ou l'agro-industrie, on peut avoir un système qu'on réplique un peu partout, puisque le sol est juste un substrat, donc c'est facile d'avoir les mêmes types d'intrants et d'herbicides et pesticides et un peu les mêmes techniques agricoles. Sur l'agroécologie, en fait, sur chaque parcelle quasiment, il faut un peu s'adapter en fonction des cultures, de la saison, de son environnement proche, pour définir son itinéraire technique. C'est ce qui rend les choses complexes et difficilement scalable en claquant des doigts, quoi. C'est à chaque fois des grands principes qu'on peut appliquer, mais qu'il va falloir adapter à chaque ferme, à chaque parcelle sur l'exploitation. Donc ça prend du temps et ça demande beaucoup de connaissances et de formation pour les agriculteurs de demain.
Quand on s'est renseigné pour préparer cet épisode, j'ai découvert la gestion intégrée des ravageurs. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça s'intègre dans l'agroécologie ?
En fait, c'est rien de très nouveau, la gestion intégrée des ravageurs. On le faisait de tout temps. Hein. Sur une ferme, on avait des chats, on avait des nichoirs pour les chouettes parce que ces animaux-là bouffaient les ravageurs que sont les rongeurs, par exemple, et donc régulaient. Aujourd'hui, on parle, par exemple, des coccinelles qui viennent manger les pucerons. Donc, c'est comment, en fait, on utilise la faune et la flore aussi de son écosystème pour réguler et maîtriser une faune et une flore qui ne seraient pas souhaitables, ou en tout cas en quantité relativement réduite, sur son exploitation. Donc, il n'y a rien de très nouveau dans le principe. Par contre, on connaît de mieux en mieux, justement, les impacts des uns sur les autres, et on commence à mieux comprendre ces différentes interactions qui permettent justement ces régulations un peu optimisées sur une exploitation.
Dans vos fermes, quand vous recréez des écosystèmes comme ça, vous travaillez cet écosystème ou alors vous faites en sorte que ce soit un écosystème le plus naturel possible ?
On n'est pas encore à travailler ces écosystèmes parce que c'est justement des connaissances très fines et assez complexes. Donc la priorité, c'est déjà de rétablir des zones où ces écosystèmes peuvent se rétablir. Donc typiquement des haies, des bosquets ou des arbres en intra-parcellaire, donc typiquement les prévergers dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est ça avant tout la priorité, c'est pour que naturellement la biodiversité se réintroduise sur l'exploitation. Puis la nature fonctionne comme ça, hein, à partir du moment où on réintroduit ce type d'environnement, il y a un équilibre naturel qui va se faire entre prédateurs et prédatés. Et donc la pression, on voit que la pression des maladies, en particulier sur les cultures, baisse quand on augmente le niveau de biodiversité sur une exploitation.
Et créer des écosystèmes, est-ce que c'est pas jouer un petit peu au savant fou et être contre-productif ?
C'est pour ça qu'on parle pas de création d'écosystèmes. Quand on réintroduit une haie, effectivement, c'est est-ce qu'il faut décider de planter tel et tel végétaux et puis de forcer un peu la nature, ou est-ce que l'autre approche, on laisse naturellement les haies se constituer ?
Dans ce cas-là, justement, est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui peuvent empiéter sur d'autres, ou en tout cas nuire au développement? C'est des choses qui se calculent à l'avance, non? Qui se réfléchissent?
C'est très compliqué. Ouais. On peut le réfléchir. Maintenant, maîtriser ça.
C'est pas toujours
et puis,
ce qui se passe,
ce que tu disais un peu juste, est-ce qu'il faut absolument le forcer?
Parce que c'est peut-être contre-productif. Être, en fait, à rebours des valeurs intrinsèques de l'agroécologie, de recréer un écosystème qui sert ses propres intérêts. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas, quoi.
Ouais, c'est. Et ce qu'on disait sur un écosystème, c'est très local. Donc si on ne laisse pas un peu la nature faire localement, on risque de se planter, de ne pas réintroduire les bonnes espèces qui naturellement fonctionnent bien sur le site. Donc il faut effectivement laisser de la place à la nature, mais laisser faire, quoi. Pas trop forcer.
Sur ce podcast, on va parler avec un très cher monsieur qui produit des vignes dans l'espace. Est-ce que ça te semble aberrant ou pas? Parce que là, t'es quand même sur un extrême. Vous êtes tous les deux sur des extrêmes très très différents.
Aberrant, on peut s'amuser hein, comme on veut, mais fondamentalement, moi, ma conviction, oui, c'est que ça n'a aucun intérêt. Alors déjà, la vigne, c'est pas fondamental à la vie de qui que ce soit. C'est plutôt un luxe, clairement. Et alors, dans l'espace... Ok, on se dit, oui, c'est peut-être pour.
C'est pour stresser
dans
la
5
vigne.
Ans, 100 ans, c'est pour stresser la vigne, mais je vois pas, en fait, je vois pas ce que ça peut
c'est
apporter. Pour moi, c'est plus un prétexte pour aller dans l'espace et se faire plaisir. Bon, ok, mais je vois pas l'intérêt fondamental pour la vie sur Terre. Hein.
Mais le fait que le foncier soit de plus en plus réduit, aller produire. Je t'ai pris l'exemple de l'espace parce que c'est hyper extrême et que ça me faisait penser à ça, mais aller produire dans des zones où. traditionnellement n'irait pas produire. Par exemple, faire de la production en étage, faire de la production dans les sous-sols de Paris, faire de la production dans les magasins. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel que tu trouves vertueux et dans lequel toi tu crois ou pas forcément?
Si tu te places sur le plan agroécologique, non, j'y crois pas un instant. Et c'est jamais. Alors pour le coup, on parlait de scalability. C'est jamais quelque chose qui à l'échelle va nourrir la planète. Est-ce que je balayerais ça d'un revers de la main? Non, je trouve que c'est un gros intérêt quand même. Mais c'est plus d'un côté éducatif, c'est que ça ramène dans la ville des zones de production d'alimentation qu'on a totalement perdu aujourd'hui.
Oui, mais si on les met dans les sous-sols des villes ou alors dans les derrière, dans les réserves des supermarchés, dans ces cas-là, on ne voit pas...
Et là, ça n'a aucun intérêt. Là, pour le coup, ça perd tout son intérêt et je ne vois pas. Et en plus, le bilan carbone, enfin, on dira ce qu'on veut, mais le bilan carbone total de ce type d'activité, en fait, est au grand mieux neutre et le plus souvent négatif. Parce que de toute façon, il faut ramener ce qu'on disait, il faut ramener des intrants sur place pour cultiver parce que dans un conteneur, la fertilité n'existe pas. Donc, il faut ramener de la fertilité sur le site, de l'eau, enfin, voilà, plein de choses qui manquent à la plante. Donc au final, on ne peut pas vendre ça pour une opportunité ni agroécologique, ni comme la façon de subvenir aux besoins de l'humanité dans l'avenir. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, s'il n'y a pas ce côté pédagogique en plus, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt.
À ce sujet-là, je pose ça de manière très naïve, mais comment on nourrit 10 milliards de personnes aujourd'hui ou dans le futur? Est-ce que ça va passer justement par plus d'espace? Est-ce que ça va passer par des moyens de production différents? Parce qu'en plus, si on veut les nourrir de manière respectueuse, vu qu'on se rend compte, bien sûr, avec tout ce qu'on a dit, que ce qu'on a fait jusque-là n'était peut-être pas la meilleure voie à prendre. J'imagine que c'est des questions qui...
Gros débat, un peu sans fin. Moi, ma vision là-dessus, c'est que c'est tout à fait possible de nourrir, en tout cas, l'essentiel de l'humanité via l'agroécologie, donc des pratiques beaucoup plus vertueuses, sans pour autant raser toutes les forêts et mettre toutes les surfaces en culture. Mais ça demande un changement radical d'alimentation, c'est clair. On ne peut pas continuer à avoir, en particulier de l'élevage ultra intensif, en particulier en Occident, parce que c'est beaucoup trop consommateur au final de surface. Pour produire un kilo de viande, on le sait, ça demande énormément de production derrière. Donc si on ne change pas radicalement nos modes de consommation, on sera coincé dans une agriculture productiviste parce que c'est la seule à même d'assurer ces quantités d'alimentation nécessaires à ce type de production. Donc voilà, le débat il est là fondamentalement. C'est est-ce qu'on accepte de changer ou pas?
Parce qu'on parle aussi beaucoup, surtout depuis le Covid, de retour au local. Et on voit de plus en plus de gens, en tout cas ceux qui ont la possibilité de le faire, qui habitent peut-être plus en province, en campagne, d'eux-mêmes produire. Voilà, de leur côté, il y a des gens qui adorent ça aussi. Est-ce que tu penses que ça peut permettre de donner un nouvel élan à ce qu'est aujourd'hui l'agronomie? Se dire que chacun peut aussi maintenant chez lui avoir une petite partie de production, pourquoi pas la relayer et...
Ouais, c'est ce que je disais sur la vertu de ramener l'agriculture dans la ville. Je pense que c'est exactement le même principe. Si on peut rééduquer toutes les populations à ce que c'est produire de l'alimentation, quoi, que ça vient pas juste d'un supermarché.
Plutôt que de produire énormément sur des grands espaces
pour
tout le monde.
De ramener un peu en local. Après, ça va jamais subvenir à tous les besoins de la population, mais c'est extrêmement vertueux en termes de pédagogie. Pour les populations, pour comprendre d'où vient ce qu'on mange. Et du coup, essayer d'être un peu plus ouvert à des pratiques qui sont certes peut-être un peu plus chères en termes de production. Enfin, l'agroécologie est structurellement plus chère aujourd'hui. Mais voilà, qui est un vrai bénéfice pour tout le monde. Donc oui, moi je pense que c'est très vertueux. Mais c'est pas... Voilà, faut pas faire croire non plus que c'est une réponse...
Bien sûr, ça ne suffira pas.
À l'alimentation des populations.
Ça peut dynamiser les écosystèmes.
Mais par contre, dans les... potentielle réponse dans les briques de réponse, est-ce qu'il n'y a pas l'éducation? Moi, j'ai fait mon école élémentaire dans une zone prioritaire d'éducation. Tu vois, on avait un potager dans la cour et on faisait du jardinage. Est-ce que ça, c'est pas une matière, je sais pas comment on doit le formuler, le jardinage, je sais rien, qui doit être enseigné à l'école?
Complètement, moi je suis complètement aligné avec ça. Enfin, faut qu'on revienne à.
C'est vrai que pour le moment, on se limite à faire pousser des pois chiches dans des pots de confiture.
Mais ouais, c'est ça. C'est bon, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est un bon début. Mais...
comprendre ce que c'est la vie et voilà, une graine et autres. Mais ouais, moi, je serais hyper favorable à ce qu'on ait un petit potager, trois poules dans chaque école pour comprendre
ça. Mettre les mains un peu dans la terre.
Exactement. Je pense que c'est favorable. Et puis, on a, c'est vrai, en agriculture, une crise des vocations. Alors, une crise des vocations, c'est à double tranchant. On a beaucoup de gens, ce que tu disais, qui ont envie de revenir à la nature, au sol, et qui s'imaginent que, malheureusement, avec l'agriculture, c'est un peu un potager en plus grand. Donc, c'est très bien, d'un côté. Mais en même temps, ça ne prépare pas non plus complètement à ce qu'est vraiment un métier d'agriculteur. Un métier d'agriculteur, c'est quand même dur. Ce n'est pas juste un potager en plus grand. C'est quand même beaucoup plus complexe. Mais voilà, si on peut quand même commencer à éduquer toute la population à ça.
C'est quoi un métier d'agriculteur ? Après, on revient sur l'éducation.
Mais... en fait, un métier d'agriculteur, ce n'est pas juste prendre soin de ses légumes. Enfin, c'est toute la chaîne. C'est comment je prends soin des sols, comment je prépare mes productions, comment j'anticipe sur les années futures. Comment j'imagine mes modes de commercialisation, mes modes de vente. C'est vraiment être entrepreneur. Enfin, c'est un nombre de compétences très large. C'est pas juste être dans le champ et désherber son petit carré de terre. Hein. C'est réfléchir à son équipement, à ses investissements. Enfin, voilà. C'est en fait extrêmement complexe et assez dur. Enfin, c'est ouais, très prenant.
En plus, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont l'air d'avoir du mal à en vivre. En tout cas, on l'entend souvent. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin peut-être d'apporter plus de soutien et de quelle manière
c'est ce qu'on fait avec Fève.
Ouais.
Oui, il y a besoin de plus de soutien.
Parce qu'on entend souvent des histoires assez tragiques des agriculteurs.
Ouais,
après, j'imagine qu'il y a de la médiatisation derrière. Mais...
ouais, c'est ça, parce qu'il y en a aussi qui gagnent très très bien leur vie, hein, en conventionnel ou en agroécologie, bio et autres. Hein. Donc, et je pense que c'est comme ça aussi, quelqu'un qui est des. Un bon chef d'entreprise dans l'agriculture,
il gagne bien
sa vie. En fait, il n'y a pas de fatalité, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de fatalité dans l'agriculture, c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture qu'on ne gagne pas sa vie.
Bien sûr.
Si on gère bien son exploitation, on peut très bien gagner sa vie, même sur des surfaces relativement réduites, parce qu'on maîtrise ses débouchés, ses prix de vente, on est peu dépendant de l'industrie en amont. Enfin voilà, il y a plein de moyens de bien gagner sa vie en agricole. Mais malgré tout, il y a besoin d'un soutien parce que ça devient très capitalistique, hein, l'agriculture. En fait, c'est très capitalistique parce que un outil de production, c'est des bâtiments, des terres, du matériel, éventuellement du cheptel. Et une installation, c'est 500 000, 800 000, 1,5 million d'euros. Alors, quand on débute dans la vie, on n'a juste pas ces montants-là à mettre. Donc, on fait comment ? Donc, FEV, voilà, c'est une des réponses. Mais au global, voilà, il y a une grosse problématique autour des investissements nécessaires en agriculture qui font aussi qu'aujourd'hui, ben, les seuls moyens de transmettre les fermes, c'est de les agrandir, quoi. C'est le voisin qui a déjà remboursé sa ferme, qui rachète la ferme du voisin pour être encore plus gros. Mais du coup, on décale le problème dans le temps et à un moment, il y a des fermes de 2000, 3000, 4000 hectares. On en fait quoi? On les vend à des industriels parce que c'est les seuls qui peuvent les racheter. Je suis pas sûr que ce soit la bonne pente, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui, j'ai envie de dire, qui incubent des fermes ou pas ?
Qui sont des Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Il n'y a pas tellement, à ma connaissance, d'incubateurs comme il y a dans les startups.
En fait, vous, c'est un peu quand même ce que
ouais,
vous
Oui, on ne s'est jamais présenté comme ça, en fait. Ouais. Mais quelque part, il y a un peu cette notion-là ouais, d'incubateur. Après, il y a beaucoup, on parle un peu de pépinière ou de... où il y a des sites, par exemple le réseau Renetta, je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
C'est des espaces tests agricoles qui permettent à des, surtout en maraîchage, mais à des jeunes de s'installer pendant 3 ans sur des petites surfaces et de se tester.
Financé par l'État ?
Non. Enfin, si indirectement, parce que c'est des associations associatives, donc oui, ils ont du financement.
Okay. D'intérêt général.
Exactement. Mais c'est beaucoup de bénévoles aussi. Enfin, voilà, c'est beaucoup de bénévolat. D'anciens agriculteurs, par exemple, qui participent, et des communes, par exemple, qui mettent des terres à disposition, ou d'autres agriculteurs qui mettent des terres à disposition. Et donc, voilà, ça permet à des jeunes de se tester et puis d'être accompagnés techniquement. Donc, il y a quand même des initiatives, mais voilà, c'est pas dans le mode start-up tel que vous pouvez l'imaginer, quoi.
Ouais, parce que la start-up est plus brandée que, l'agrologie, pour revenir sur l'éducation, est-ce que, parce que tout à l'heure c'était Paul, quand tu nous parlais de faire pousser des graines dans des pots, ouais. Je me suis dit, putain, c'est quand même aberrant. Ouais, on parle d'éducation et ça, en fait, hein. On reprend le modèle d'avant qui fonctionne pas, c'est-à-dire de créer un faux écosystème, de se faire croire qu'on fait un écosystème alors que pas du tout, parce qu'en fait, on contrôle tout ce qu'on met dans le pot et on laisse rien pousser. Et si il y a une pauvre petite brindille qui oserait pousser, on l'enlève immédiatement.
Ouais.
Et est-ce que c'est pas contre-productif ça et que l'éducation, ne serait-ce sur l'agriculture, on devrait la repenser?
Bah, l'agriculture, il faut la repenser, ça c'est évident. Là maintenant, sur cette partie éducation, je comprends ton point. Après, t'es obligé, surtout si tu t'adresses à des jeunes enfants, de quand même simplifier les choses, de simplifier le message. Si je reprends ton exemple, si tu laisses pousser dans un bac tout ce qui vient, ça va être difficile d'illustrer qu'une petite graine donne naissance à une petite graine de pois chiche donne naissance à un plant de pois chiche qui va lui-même donner des petits pois chiches derrière. Enfin voilà, je pense que la simplification à un moment est quand même nécessaire pour permettre d'illustrer un propos et un processus biologique. Maintenant,
ça dépend du point de départ. Hein.
C'est-à-dire
là, toi, ton point de départ, c'est la graine. Moi, le point de départ, c'est l'écosystème. Donc, je prends mon écosystème, je zoome sur une graine au hasard, sur un plant au hasard, et après, je fais sa rétrospective d'où est-ce qu'elle vient.
Oui, après, c'est vachement plus complexe à illustrer. Il va falloir aussi avoir des instituteurs qui soient...
C'est ça, c'est aussi le problème de qui l'enseigne.
Qui soient agronomes, quoi.
Ouais.
Donc, oui, t'as raison, fondamentalement, c'est mieux, et c'est ce qui se passe dans la vie, quoi, enfin, ou dans la nature, mais... Voilà, je trouve que le côté simplificateur n'est quand même pas... Ok, s'il est bien accompagné, bien communiqué, il n'est quand même pas inintéressant.
Mais c'est vrai qu'on parle de l'école parce que c'est ce qui nous parle le plus en termes d'éducation, mais comment on éduque même la population adulte sans leur demander d'aller forcément faire pousser des pois chiches, mais à ces nouveaux types d'agriculture et de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt à peut-être consommer ce type de produit ou...
Bah, tu parlais de, malheureusement, c'est très compliqué, hein. Tu parlais de marketing aujourd'hui. Je trouve que, bah oui.
C'est un peu une des seules solutions,
mais quand même la solution la plus facile. Parce que c'est déjà extrêmement compliqué de faire comprendre ça aux décideurs politiques ou même à des agriculteurs, hein, qui ont fait pendant 10, 20, 30, 40 ans, du conventionnel. Leur expliquer qu'il faut aller vers d'autres modèles.
Des raisons économiques ou c'est de manière...
C'est plein de choses. C'est des raisons économiques, c'est une pression sociale du milieu, hein, qui vous empêche un peu des fois de faire des pas de côté. C'est effectivement parce que on est dans des filières qui sont organisées comme ça. Et donc sortir de ces filières, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que c'est compliqué, mais c'est aussi même tout simplement que l'agroécologie, bah, c'est beaucoup moins simple sur le terrain à appliquer que passer un coup de Roundup ou un coup de charrue, quoi. Enfin, c'est plus complexe. Donc voilà, je trouve que c'est déjà très dur de faire comprendre ça aux gens qui sont les premiers concernés. Donc avoir l'ambition de faire comprendre à la population ce que c'est, ce serait génial, hein, et très louable, mais... En tout cas, nous, c'est pas notre approche. On se dit que c'est un peu trop et qu'on va déjà se concentrer sur l'essentiel qui est déjà de remettre des gens avec l'envie de faire de l'agroécologie dans les champs, quoi.
Et ces personnes-ci, est-ce qu'elles sont confrontées à des défis techniques et pratiques très forts sur lesquels c'est difficile,
ouais,
que c'est difficile à surmonter?
Nous, c'est un de nos gros défis, à la fois nos ambitions, mais on ne sait pas comment on va y arriver, c'est faire de l'agriculture biologique de conservation.
Ok.
Je vous disais, un point clé, c'est la conservation des sols, c'est-à-dire faire du non-labour et de faire en même temps de l'agriculture biologique. Pourquoi, je vous disais, en Amérique, ils mettent du Roundup, ils font donc du non-labour, mais ils mettent du Roundup. C'est parce que si on ne laboure pas, on a plein de mauvaises herbes qui poussent dans les champs. Et pour les éliminer, il y a le Roundup. Et il n'y a pas forcément... Enfin, il y a d'autres solutions... Via la diversité, via par exemple l'élevage, mettre des animaux dans les champs qui vont éliminer quelque part ou brouter ces mauvaises herbes. Mais ça, c'est des organisations très complexes. Donc la cible serait à la fois de faire du non-labour et de ne jamais avoir recours soit au labour, soit des herbicides pour détruire ces végétaux qu'on ne veut pas dans nos champs. Maintenant, il y a certains contextes qu'on appelle pédologiques, c'est-à-dire certaines natures de sol qui rendent ça très compliqué, parce que dès que le sol est mouillé, typiquement, on peut pas rentrer un tracteur, donc on peut pas éventuellement aller passer un petit coup de labour pour éliminer ces herbes ou faire paître des vaches parce qu'elles vont s'enfoncer dans le sol. Donc voilà, il y a plein de contextes qui font que ça peut être très compliqué d'associer à la fois agriculture biologique et non-labour. Donc on pousse quand même vers ça, parce qu'on apprend aussi au quotidien plein de nouvelles choses, et je pense qu'on va, au fur et à mesure du temps, s'approcher de cette cible. Mais je pense quand même qu'il y aura des contextes dans lesquels ça restera très difficile et qu'il faudra malgré tout, et nous c'est ce qu'on s'autorise du coup, passer un petit coup de charrue dans le champ pour parce qu'on s'est fait déborder par des mauvaises herbes.
Mais de toute façon, si je comprends bien, c'est pas une transition d'une fois, c'est-à-dire c'est pas on passe de l'agriculture classique à agroécologique, c'est vraiment un travail sur des années, c'est du...
Ouais, et on a le droit à l'erreur. Enfin, voilà. Et il y a des moments où ça se passera pas comme on voulait. Et voilà, bah, il faudra malgré tout rectifier le tir parce que c'est de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est pas on laisse faire la nature. C'est, bah, on essaye quand même de contrôler les choses et d'intervenir pour orienter. Donc, voilà, c'est pas, entre guillemets, parfait.
Est-ce qu'il y a d'autres défis techniques comme ça que vous rencontrez ou alors que vos agriculteurs rencontrent?
Il y en a plein. Enfin, et un des gros défis sera de se passer aussi des engrais. Enfin, on en parlait, les engrais azotés ou les engrais minéraux. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a de gros débats sur le phosphore, par exemple.
Ouais.
C'est quoi le débat sur le phosphore?
Alors, le phosphore, donc c'est un des minéraux essentiels à l'agriculture. La problématique, c'est que que quelques endroits dans le monde où il y a des mines de phosphore avec des quantités de phosphore assez importantes, dont je crois 70% au Maroc, qu'un jour ou l'autre ces mines vont être épuisées, qu'elles alimentent le monde entier en phosphore, et que le jour où on n'aura plus ces mines-là, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, en particulier en Europe, hein, aux États-Unis, on a tendance du coup, parce que ces mines existent, à balancer beaucoup de phosphore dans nos sols. Ce phosphore est lessivé, finit dans l'eau et dans la mer. Mais le jour où on n'aura plus tout ça, cette ressource disponible, comment on va faire avec le phosphore? Donc il faut totalement repenser nos manières de faire pour ne pas gaspiller cette ressource en phosphore qui est très limitée. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles les gens réfléchissent, mais par exemple, recycler toute l'urine humaine qui est en fait très concentrée en phosphore, mais qui aujourd'hui part aux égouts. Et donc la rapporter dans les champs pour redonner la fertilité à ces champs.
Parce qu'en fait, pH, c'est quasiment un cycle.
Bah après, il faut
la retravailler.
Voilà, il faut la retravailler. Et puis en plus, dans nos urines, il y a
à boire,
des médicaments, des hormones. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de réflexion. Mais en fait, si on arrivait à refaire une boucle fermée, c'est-à-dire que la plante capte le phosphore, on mange la plante, et puis quand on urine, on récupère cette urine pour restituer le phosphore au sol. Là, des gens résoudraient une bonne partie du problème. Donc, mais c'est un défi logistique et
on de imagine structuration.
C'est colossal. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus pour l'instant. Ouais.
Ouais. Bah, il y a une boîte qui est à Bordeaux, comme nous, qui s'appelle Toupi. Alors, leur approche n'était pas forcément le phosphore, mais en tout cas, ils travaillent sur l'urine pour faire de l'urine un biofertilisant à restituer aux cultures. Donc, voilà, il y a plein de boîtes qui commencent à monter.
On imagine que ça peut être facile de lever des fonds là-dessus.
Ben non, si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser, qui comprennent tout à fait que voilà, il y a des vrais, il y a des vrais enjeux à ces niveaux-là. Donc
puis t'as pas de problème,
ça commence à foisonner là-dessus. Mais voilà, c'est typiquement un des enjeux auxquels l'humanité, parce que là, c'est vraiment le phosphore, c'est un enjeu pour la planète, hein, va devoir faire face. Donc il faut des cerveaux brillants qui s'attaquent à ces problèmes.
Quand je t'entends parler, je me rends compte que c'est un sujet qui est éminemment politique et sociologique. Est-ce qu'aujourd'hui, le politique pousse un peu là-dessus ou assez peu?
Enfin, c'est la politique.
Parce qu'elle est aujourd'hui, elle est quand même
diverse.
Elle est influencée par la politique au sens du gouvernement et des députés de l'Assemblée nationale, etc. Elle est quand même influencée, ce qui est normal ou normal, par des lobbies, donc des groupes de personnes qui s'associent pour défendre un point de vue. Les lobbies de l'agriculture traditionnelle sont quand même très très forts. Est-ce que aujourd'hui c'est pas un énorme défi pour vous?
Si, bien sûr. Et effectivement, l'agriculture est très conservatrice dans ses approches.
Et c'est un marché qui est éminemment monopolistique aussi. Il y a très peu de distributeurs.
Ouais, alors ça c'est sur l'aval.
Ouais.
Effectivement, mais donc c'est tout, en fait, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faudrait modifier avec plein d'intérêts effectivement en place qui ont juste pas envie de changer pour des mauvaises, mais aussi pour des bonnes raisons. Hein. Si je prends les coopératives agricoles par exemple, bon, fondamentalement, une coopérative agricole, elle est juste là pour ce que les agriculteurs qui sont adhérents vivent mieux, donc mieux valoriser leurs produits. Mais ces coopératives ont souvent investi dans de gros outils de production pour lesquels, si on change les modes d'agriculture, potentiellement, ces deux outils sont obsolètes. Je vais prendre un exemple dont vous avez certainement entendu parler sur la betterave en ce moment. On a parlé beaucoup des néonicotinoïdes. Pourquoi est-ce qu'on a des néonicotinoïdes? C'est parce qu'aujourd'hui, les sucreries se sont concentrées. Enfin, on a des sucreries de plus en plus grosses. Donc, ils demandent sur un point donné de plus en plus de betteraves. Donc, il faut produire beaucoup de betteraves sur un cercle relativement, enfin, un périmètre relativement limité. Donc, il faut absolument maîtriser tous les ravageurs de la betterave. Donc, les néonicotinoïdes étaient là pour ça, pour permettre de concentrer la production sur des zones plus réduites. Si demain, on se dit que la solution, c'est de produire moins de betteraves, mais sur plus de surface, c'est-à-dire qu'il faut casser la supply chain actuelle, c'est-à-dire avoir des unités de production plus petites et plus réparties sur le territoire, ce qu'on avait avant. Mais c'est des investissements colossaux. Qui va prendre ça en charge? Qui va financer ça? À date, personne. Donc il faut
subventionner.
Subventionner, ça veut dire être hyper volontariste, mettre énormément d'argent pour restructurer ça. Mais aujourd'hui, je pense que personne n'a cette envie, cette vision. Enfin, en tout cas, pas au gouvernement. Donc on est un peu coincé. Est-ce que ce sera quand on sera dans le mur qu'on fera ça? Est-ce que bon, aujourd'hui, franchement, ma vision, c'est qu'on va pas vers ça. Je pense qu'on va plutôt se reposer sur typiquement les nouvelles technologies de manipulation des génomes pour trouver, enfin accélérer l'identification de nouvelles variétés ou la création de nouvelles variétés de plantes qui seront plus résistantes à ci, plus résistantes à ça. Je pense que il y a ce côté très high-tech aujourd'hui dans l'air, et on va plutôt vers ça que vers une reconfiguration des chaînes de valeur.
Et ça fonctionne, ça, ou pas?
Ça fonctionne. Après, c'est toujours le même problème. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer le problème de demain, quoi? On résout une solution court terme.
Le fameux effet rebond.
Bah ouais, et moi, c'est ma grosse crainte, hein, ce type de choses. On se dit, on va effectivement créer de nouvelles variétés résistantes à tout. Le problème, c'est qu'on va peut-être encore réduire la biodiversité des écosystèmes, et donc encore plus mettre en péril l'écosystème global de la planète, parce que il y aura encore moins de diversité dans nos campagnes que ce qu'il y a aujourd'hui. Et pour moi, c'est un vrai gros risque. Donc, je serais extrêmement prudent avec ce type de technologie.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Est-ce qu'il y a des moyens pour surmonter tous ces obstacles, tous ces enjeux qui sont mis en place aujourd'hui, ou alors qui devraient être mis en place et qui pourraient l'être? Par exemple, les subventions, mine de rien, ça va coûter hyper, hyper cher pour un gain qui est certes national, mais qui sera perçu par très peu d'acteurs directement. Donc, difficile à justifier. Et dans un contexte de « on veut réduire la dette », c'est peut-être pas le plus pertinent.
Moi, je pense qu'il y a une approche qui serait très vertueuse, mais qui est assez dure, c'est la fameuse taxe carbone. Ben, si on faisait payer au juste prix toutes les industries, toutes les filières...
Les externalités négatives qu'elles génèrent.
Exactement. Alors, c'est sûr, l'impact direct, ce serait un renchérissement de toutes les productions agricoles. Si on parle vraiment de l'agricole, c'est sûr que l'alimentation va d'un coup augmenter. On voit déjà l'inflation qu'on a eue là, ces derniers mois, dernières années, l'impact que ça a eu sur les populations. Mais je veux dire, pour moi, c'est le seul moyen de pousser un changement structurel de l'ensemble de cette industrie-là. Parce que si l'alimentation est plus chère, qu'est-ce qui va coûter beaucoup plus cher? C'est plutôt l'agriculture conventionnelle, parce que c'est elle qui a beaucoup d'externalités négatives. Et donc, le bio ou l'agroécologique va comparativement être beaucoup plus abordable. Et donc, les gens, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, vont naturellement plutôt aller vers ces produits, parce qu'après équivalent, autant prendre le produit le plus sain et le plus vertueux. Hein. Mais voilà, ça pose plein d'autres problèmes sociaux que le gouvernement doit être prêt à attaquer, et en particulier, selon moi, en subventionnant pour les plus pauvres l'alimentation. Parce qu'effectivement, c'est un besoin essentiel. Ce que n'est pas forcément un iPhone, le dernier iPhone ou je ne sais quoi.
Par rapport aux obstacles, on a parlé pas mal justement de tout ce qui était les politiques.
Ouais.
Sur le long terme, est-ce que ça coûte vraiment plus cher à implémenter ce genre de...
Ah, tu veux dire, est-ce que l'agroécologie structurellement est plus chère ?
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, oui, parce que l'agriculture est en fait ultra subventionnée via la subvention aux énergies fossiles. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais aujourd'hui, on considère qu'on apporte plus d'énergie via les ressources fossiles à l'agriculture qu'on retire de calories alimentaires de l'agriculture. Et je crois que le chiffre, je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros, on introduit 2 calories d'énergie fossile pour en retirer 1 d'alimentation. C'est totalement aberrant, mais ça explique aussi pourquoi l'alimentation est très peu chère, en tout cas beaucoup moins chère qu'une alimentation agroécologique. Donc oui, aujourd'hui, structurellement, l'agroécologie, c'est plus cher que du conventionnel. Mais encore une fois, si on l'évalue à son juste coût, l'agriculture conventionnelle est beaucoup plus chère parce qu'elle a beaucoup plus d'impact négatif. Donc moi, je suis convaincu que demain, de toute façon, l'agroécologie sera moins onéreuse, en tout cas pas plus que du conventionnel, plus compliqué à mettre en œuvre. Après, il y a certains contextes où ce ne sera pas forcément le cas. Hein. Les endroits où les terres sont ultra productives, de très bonne qualité, faciles à exploiter, on restera sans doute avec une agriculture relativement intensive, avec moins d'intrants, ça j'en suis persuadé, on mettra de toute façon moins d'azote, moins d'herbicides, moins de pesticides, mais on restera quand même, on ne sera pas en bio, et on restera voilà, quand même dans une agriculture relativement intensive, mais l'écart de prix et de coût va fortement diminuer, ça j'en suis convaincu.
Et du fait qu'il y a quand même plus de travail et d'investissement humain, ce que tu me disais, à mettre déjà de pratiques en place, est-ce que tu penses que ça peut inciter... une forme de création d'emplois plus durable sur ce type de métier ?
Nous, on pense qu'effectivement...
parce qu'on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre.
C'est obligatoire.
Ou de nouveaux types de main-d'œuvre.
Maintenant, c'est un vrai enjeu. C'est est-ce qu'on va réussir à ramener suffisamment de gens sur ces métiers-là, qui sont des métiers quand même difficiles. Alors, c'est génial, c'est dans la nature, mais ce n'est pas des métiers simples. Donc voilà, est-ce qu'on y arrivera ? Puis en particulier sur des parties qui peuvent être très compliquées. Enfin, le but c'est pas non plus de revenir au binage à la main des parcelles, quoi. C'est voilà, de créer de l'emploi, mais de l'emploi quand même de qualité. Donc c'est un enjeu. Mais oui, moi je suis persuadé. Je crois qu'il y avait un rapport du Shift Project hein, qui disait que il faudrait repasser de il faudrait augmenter en gros la main d'œuvre de 500 000 personnes en France. En passant à des pratiques plus agroécologiques et plus vertueuses. Donc 500 000 emplois, c'est pas rien, quoi. Enfin, on double le nombre d'actifs, en gros, agricoles.
On parle pas mal de bio, là, depuis tout à l'heure. Est-ce que le bio, c'est vraiment un bon indicateur ? Et est-ce qu'on peut s'y fier ou pas ?
Parce que tu parles du dernier reportage de Élise Lucet.
entre autres, c'est que... Mais ça fait quelque temps où... On voit que le bio, c'est un label qu'on peut avoir en jouant un peu avec les chiffres et avec ce qu'on fait, et que finalement, c'est peut-être pas si...
C'est comme tout, en fait. Il y a un outil et la façon dont tu l'utilises fait que c'est vertueux ou pas vertueux. Le bio, il y a quand même un label. Quoi qu'il arrive, ne pas utiliser de pesticides, c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il y a certains contextes ou certains modes de production qui font que le bio peut ne pas être vertueux. Je prends l'exemple du cuivre. C'est un élément qui est vachement utilisé en agriculture biologique. Mais quand on utilise du cuivre en très haute dose, on se retrouve avec des sols qui sont saturés en cuivre et c'est très néfaste pour la vie du sol. Donc, c'est comme tout, hein. Le bio en tant que tel peut ne pas être la panacée. C'est pour ça que nous, le bio, on le considère comme un des outils, un des piliers, mais il n'est pas unique. Enfin, faut faire du bio et de l'agroécologie. C'est comme ça que ce sera vertueux. Et en particulier, je reviens à la diversité et à la diversification. Si on a des productions très diversifiées, on va pas utiliser toujours, je prends le cuivre, toujours du cuivre au même endroit, tous les ans, année après année, qui vont saturer les sols et pourrir les sols. Si on a une grosse diversité sur l'exploitation, on va changer ses techniques sur chaque parcelle d'année en année. Et du coup, voilà, on va limiter les risques que nos productions soient néfastes à l'environnement. Donc, le bio est plutôt favorable. Nous, on le met en obligatoire parce que c'est un moyen aussi d'inciter à aller beaucoup plus loin dans les pratiques. Mais je suis persuadé que ce n'y aura pas du bio à 100% dans l'avenir. Je pense que si l'agriculture conventionnelle réussit à se transformer, à être beaucoup moins intensive en termes d'intrants, et utiliser 2, 3, 4, 5 fois moins d'engrais, de pesticides et autres, on aura déjà fait un très gros progrès.
C'est vrai que des fois, on a l'impression que le label bio est presque un peu surutilisé. Par exemple, quand on voit, imaginons du beurre bio, ça signifie quoi? Ça veut dire que les vaches qui ont produit le lait qui a servi à faire ce beurre, elles ont été nourries avec sur des sols qui sont bio, c'est ça?
Ouais, et des
d'accord.
aliments bio.
Donc c'est vraiment par le début bio. De la chaîne
ouais,
de production.
Ouais. Okay. Là, pour le coup, c'est un label qui est quand même puissant de ce point de vue. C'est que il impacte aussi
les produits transformés,
toute la chaîne de valeur. Ouais. Quoi. Voilà. Donc si on donne de l'aliment au bétail, ça doit être un aliment bio. Maintenant, où il est limité, c'est que bah effectivement, on peut donner du soja sud-américain aux vaches qui produisent du lait bio. Donc, c'est bien
mais
de faire du bio, mais c'est
planète,
pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin que ça et avoir une approche plus holistique et faire que, il faudrait même que toute l'alimentation des animaux soit produite sur l'exploitation, enfin, en tout cas, en très grosse partie, mais c'est un label qui essaie de se transformer aussi, le bio. Il essaye d'aller de plus en plus vers de l'agroécologie. Mais c'est dur parce que maintenant, c'est un label européen. Donc là, pour le coup, on se retrouve dans des conflits d'intérêts où certains pays en Europe...
On repart en arrière, quoi.
Bon, en tout cas, on ne veut pas aller plus loin parce qu'on va mettre un socle minimal et ça nous permet de faire du bio-productiviste et de surfer là-dessus. Donc,
C'est vrai que j'avais vu un reportage même assez intéressant où il parlait du problème même que certaines exploitations bleues étaient situées pas si loin d'exploitations plus classiques. Et qu'en fait, ils se rendaient compte que simplement, avec les phénomènes de vent, il y avait en fait des particules de pesticides qui arrivaient sur les terres bio et que finalement, ça faussait d'une certaine manière le label. Donc, on se rend compte qu'il faut aussi le prendre avec des pincettes, que c'est des efforts, mais peut-être pas non plus une solution parfaite, c'est ça?
Ouais, mais à minima, au moins, on n'aurait pas épandu plus de pesticides
c'est déjà
sur cette parcelle.
Très
mais effectivement, c'est pas une garantie
des limites,
qu'on
quoi.
Retrouve pas des résidus ou des trucs.
Il y a des limites.
Mais bon, oui, c'est comme bien tout, c'est limité, c'est pas certain.
Peut-être pour résumer ce point-ci, l'avantage de cet indicateur, parce que justement, je pense qu'il faut le prendre comme un indicateur, c'est qu'il pousse à agir. Il pousse à agir
exactement.
Dans une direction. Il donne un cadre que on adapte à sa perception du monde, à sa vision aussi des choses, à ses contraintes perso, et pour essayer de faire le mieux.
Exactement. C'est comme ça qu'on le voit.
Tu parlais un petit peu tout à l'heure de l'high-tech, de la place de la tech un peu dans l'agriculture. J'adore un peu tout ce qui se développe là sur l'agriculture. Je vois des drones qui se baladent au-dessus des champs. Je vois tous ces tracteurs qui avancent tout seuls, qui fonctionnent de manière automatique. Quelle place prend aujourd'hui la tech dans l'agriculture? Est-ce que c'est quelque chose qui est vertueux ou pas?
Moi, je serais très pragmatique là-dessus. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les drones, moi, je trouve que ça peut être extrêmement intéressant pour surveiller les champs. Drones et satellites aussi, hein. Avoir une vision instantanée, en continu, de ce qui se passe sur son champ, regarder ça d'au-dessus, c'est quand même extrêmement intéressant, c'est un gros gain de temps. Si ça permet plus facilement de programmer ses interventions, très bien, enfin, moi je suis hyper favorable à ça. Si ça permet de balancer plus facilement des pesticides sur toutes les phases d'exploitation, c'est pas top.
Ouais.
Mais du coup, le même outil peut avoir plusieurs utilisations, certaines vertueuses, d'autres non. Donc, la technologie en tant que telle n'est pas négative ou positive. Enfin, voilà.
Nous, on vient toujours au même débat ça, de l'utilisation des techniques.
Exactement. La data, c'est super bien. Enfin, en particulier en agroécologie, il va falloir de plus en plus être capable d'avoir des connaissances fines de l'environnement proche de sa parcelle et son exploitation, bah, être capable de consolider toutes les données qu'on a accumulées sur des années sur son exploitation, les combiner, les croiser pour faciliter son itinéraire technique. C'est extrêmement vertueux. Après, s'il faut que cette data soit captée par l'agro-industrie, le machinisme et autres pour rendre l'agriculteur captif, eh ben c'est pas terrible. Donc voilà, c'est très ambivalent, mais je sais que certains seraient quasiment pour revenir à la charrue tirée par des chevaux ou des bœufs. Moi, pas du tout. Je pense que ça, ce serait une vraie régression. Il faut prendre le mieux de la technologie.
Mais la garder à son service.
Mais voilà, la garder au service de l'agroécologie et pas la
dévoiler. Avec ses valeurs et sa perception des choses, etc. Depuis tout à l'heure, je me rends compte que l'information, c'est essentiel dans ce secteur-ci, plus que dans n'importe quel secteur, parce que c'est un secteur qui est en pleine mutation. Et puis même là, tu nous disais, le drone, il récupère de la data, et ce qui compte, c'est savoir l'utiliser et l'utiliser dans la bonne direction. Est-ce que c'est pas un énorme enjeu pour vous, la diffusion d'informations sur ce secteur-ci, parce que je sais pas si on l'apprend à Paris Agrotech, non Agro Paritech, mais moi j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus.
C'est vrai, je pense que c'est le problème de l'agriculture en fait qui reste relativement imperméable à ce genre de technologie.
Ça reste de famille.
Qui est porté par le machinisme agricole en règle générale, mais ça reste chez eux. Et donc, ils balancent en gros des comptes rendus tout cuits aux agriculteurs ou aux coopératives sur ce qu'ils sont censés faire, mais sans qu'il y ait vraiment d'explication sur pourquoi, comment, d'où viennent les données, comment on a croisé. Et c'est un vrai problème parce qu'il faut rendre en fait l'agriculteur autonome sur l'utilisation de ces données pour lui-même définir comment il doit procéder. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu enseigné, alors plus en école d'ingénieurs d'agro, évidemment. Mais la plupart des agriculteurs ne sont pas des ingénieurs, ils ont plutôt fait un BTS agricole. Et en BTS agricole, on effleure en général ce type de choses, alors que pour moi, effectivement, c'est essentiel. Ce sera essentiel pour l'avenir. Donc oui, il y a un gros bouleversement, gros changement à faire dans le mode d'enseignement de l'agriculture. Ne serait-ce que ce que je disais, rendre autonome des chefs d'exploitation, ça veut dire avant tout former des chefs d'entreprise agricole et pas juste des pseudo-salariés d'une coopérative, ce qui est un peu ce qu'essayent de pousser certains grands syndicats agricoles, c'est tout le monde salarié, quoi.
Ok, tout le monde salarié du grand syndicat.
Pas du grand syndicat ou de... En tout cas, des gros décideurs, des gros donneurs d'ordre, que ce soit des coopératives ou des industriels. Voilà.
Sur le point des coopératives, est-ce que vous voyez émerger justement des formes d'initiatives qui mettent plusieurs acteurs dans le même panier pour encourager ce développement-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait ?
Ouais, après, il y a plein d'initiatives qui sont faites souvent au niveau local, et même des coopératives plus grosses qui essayent d'aller vers ce type d'approche. Après, c'est comme tout, c'est au-delà d'une certaine taille, ce que j'expliquais sur les sucreries. Bah, quand on a un outil industriel qui était dimensionné pour telle ou telle approche, c'est très difficile de faire machine arrière. Maintenant, on sent que ça vient, très franchement. Il y a beaucoup de structures qui se posent des questions. C'est comme très souvent poussé d'abord par le terrain, par des initiatives individuelles ou très locales. Mais c'est en train de venir. Je dirais quand même aussi, pour pas faire que de l'agro-industrie bashing, il y a aussi des gros industriels qui eux-mêmes commencent à fortement pousser pour que le système agricole se transforme. Donc on va dire qu'ils commencent à avoir une pression.
Quelques exemples ?
Je sais pas, les Danone, Nestlé, Unilever et autres. Alors, on peut dire que dans certains cas, c'est du greenwashing. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, on sent qu'eux, ils poussent pour que l'ensemble de leur chaîne de valeur amont soit en tout cas à minima beaucoup plus transparente sur les pratiques mises en œuvre et montre des vrais plans d'action pour aller vers du mieux sur les pratiques
agricoles.
Pourquoi
elles ont besoin de ça?
Elles ont besoin de ça parce qu'il y a une pression du consommateur et du monde politique pour que les choses s'améliorent. Et puis, voilà, enfin, celle aussi, la contrainte réglementaire est quand même hyper importante, hein, quand on commence à dire que le carbone, la tonne de carbone va coûter de plus en plus cher et qu'elle sera facturée à ceux qui y polluent. Toute l'industrie a besoin, du coup, de montrer qu'elle essaye de se transformer. Alors après, voilà, il y en a qui font ça pour de vraies convictions, d'autres qui font ça juste en mode réactif ou de défense.
Mais au moins, elles le font.
Mais voilà, mais ça commence à bouger et il y a une vraie prise de conscience. Donc ça, c'est quand même positif. Ça va certainement passer vite, mais ouais, ça bouge.
Pour faire un détour très rapide sur cette nécessité d'avoir de la transparence dans ce domaine-là, il y a des initiatives qui naissent autour de la blockchain, justement comme une technologie qui permet aujourd'hui, qui a des vraies applications pour notamment l'agroalimentaire et qui permet d'avoir une vraie transparence. Est-ce que tu as déjà vu ce genre d'application ? Je sais que j'ai rencontré deux, trois entreprises qui le font.
On avait même regardé ça quand j'étais sur ma boîte précédente, Promus. On regardait un peu ce qui est fait en matière de blockchain.
Tu trouves
ça pertinent ? La blockchain, c'est un outil qui apporte de la transparence et de la sécurisation dans tout type de transaction.
Exactement.
Évidemment, dans l'alimentaire. Maintenant, je pense que c'est un peu moins le cas maintenant. Maintenant, on parle surtout des tokens et choses comme ça,
ouais,
les NFT. Mais voilà, la blockchain, c'était le mot à la mode il y a 5 ans ou 10 ans. Oui, la blockchain est intéressante, mais je ne vois pas en quoi ça révolutionnerait l'agriculture. Ça va être un des outils qui permet,
pertinent, mais
surtout
voilà,
dans la data. On parlait de la data, la massification des data. Si ça permet de sécuriser toutes ces sources de données et de mieux les utiliser, super.
C'est une des raisons d'être de ce podcast, de rendre toutes ces technologies accessibles et de sortir du côté et d'ailleurs tu parles de NFT, on a fait un épisode avec Séraphie de Tracy où on parle de NFT et en fait justement on en parle, elle dit pas, ses clients savent que c'est des NFT mais elle fait du B2B2C, mais le consumer ne sait pas que c'est un NFT quoi, parce que ça a aucun intérêt à part le perdre. Et je trouve du coup c'est une bonne manière de voir la techno, c'est comprendre comment elle fonctionne pour la mettre à son service et la mettre à son service pour ce qu'elle fait réellement et pas pour le bruit qu'elle peut faire autour d'elle. Est-ce que tu aurais d'autres éléments à rajouter sur l'agro-écologie avant qu'on te torture sur nos derniers petits points ?
Ouais, il y a plein de choses à dire sur l'agro-écologie. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment indispensable d'aller vers l'agroécologie parce que de toute façon on va être confronté à la pénurie de ressources fossiles, donc il va falloir faire différemment sur nos sols. En Europe on est souvent allé beaucoup trop loin, nous on récupère la déferme, on a des taux de matière organique qui sont au plus bas. Et ça, pour la sécurité alimentaire dans l'avenir, c'est extrêmement critique et très, très dangereux. Parce que si on n'agit pas maintenant, dans 10 ans, 15 ans, quand on aura une pénurie, de nouvelles pénuries, ce sera même peut-être plus proche d'engrais, toutes ces surfaces-là, où il n'y a plus de fertilité naturelle dans les sols, elles ne seront plus productives. Et donc, potentiellement, on aura des vrais risques de pénurie alimentaire, même dans nos économies dites développées. Donc je pense qu'il y a un enjeu énorme à favoriser ce type d'agriculture. Et pour en revenir un peu aussi à ce que nous on fait, ce qui me semble très important, c'est que l'agroécologie ne reste pas l'affaire de quelques personnes,
quelques
sachants, ouais. Voilà. Mais que ce soit vraiment l'affaire de tout le monde. Ce que tu disais sur la formation des plus jeunes, je pense que c'est ultra important. Ce qu'on fait sur l'implication du citoyen qui peut permettre d'investir dans cette transition, c'est hyper important. Le fait de beaucoup mieux appliquer les agriculteurs pour qu'ils soient, eux, vraiment aux manettes et responsables et décideurs sur ce qu'ils
font. Vous intervenez là-dessus ? Vous proposez des choses, des initiatives ou pas ?
Sur quoi ? Sur le, par exemple, avec ces agriculteurs, ouais, pour qu'ils soient
sur
décideurs.
Rendre accessible à tous l'agroécologie.
On le fait auprès des agris parce que c'est ouais. L'objet, c'est de les rendre autonomes sur leur exploitation. On le fait via le financement par le citoyen lambda de l'agriculture. Par contre, on le fait pas sur la formation du plus grand nombre aux problématiques de l'agroécologie. Alors, je dirais peut-être indirectement via le podcast d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ça dans notre démarche de fond.
Ce que vous pourriez faire, c'est ouvrir les fermes, ouvrir les parcelles agricoles et proposer aux villes de pousser leurs résidents à venir faire un tour, à poser des questions, okay, comment ça fonctionne.
Et quand tu parles justement de financement, est-ce que c'est uniquement par la consommation ou est-ce que c'est par d'autres modèles de financement pour le citoyen?
Non, comment on finance les fermes, nous?
Donc tu parlais de l'engagement du citoyen aussi dans ce type de financement?
Ça peut être effectivement de plusieurs façons. C'est soit en achetant, première responsabilité, achetant des produits issus de... Et c'est comme ça qu'on soutient effectivement cette agriculture. Et nous, effectivement, c'est beaucoup plus spécifique parce qu'ils investissent directement dans des fermes. Mais je pense qu'effectivement, le premier engagement, c'est sur ce que j'achète. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on achète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lobbying pour éviter qu'il y ait trop de transparence sur la filière alimentaire, pour pas qu'on ait à préciser d'où viennent tous les ingrédients et selon quelle méthode de production ils ont été produits. Parce que justement, ça mettrait en cause, ça permettrait aux consommateurs d'avoir plus le choix et de décider vraiment qu'est-ce qu'ils achètent, quoi. Et je pense que ça, c'est un des gros enjeux. Il faut ramener aussi de la transparence auprès du consommateur sur quels sont les impacts des produits qu'il achète, qu'il consomme.
Avant de creuser le sujet de votre foncière, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, tu as cité le fait que les terres sont souvent dans des états catastrophiques. Et moi, la dernière fois que j'ai mis les mains dans la terre, c'est pas il y a si longtemps que ça, c'est il y a 6 mois, ça va. Mais c'était quand même dans un terrain, il y avait une ferme ici avant. Aujourd'hui, il y a plus de ferme, il y a plus de production agricole. Et ne serait-ce l'herbe a du mal à pousser et des mauvaises herbes, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible de remettre un terrain qui est hyper pollué, vide de tous ces minerais, etc., en bon état pour refaire de la bonne agriculture?
C'est possible, mais c'est très long.
Faut faire
quoi ? C'est très long, c'est 10, 20, 30 ans pour restaurer la fertilité d'un sol. Donc évidemment, ça s'anticipe. Ce qu'on dit aussi tout à l'heure, c'est aussi qu'on ne peut pas couper d'un coup. On ne peut pas passer instantanément d'un mode ultra-conventionnel, ultra-productiviste à un truc hyper vertueux. Et tout simplement parce que ce que tu dis là, si tu fais d'un coup du bio sans intrants, sans machin, en fait, rien ne va pousser parce que le sol est mort. Et donc, il faut d'abord se remettre à produire la biomasse en mettant moins d'engrais, moins de pesticides, mais y aller, petit à petit, pour réintroduire de la vie dans les sols et que, on restaurait un peu cette fertilité naturelle qui, sans elle, en fait, tu ne peux pas faire d'agroécologie. Donc, c'est graduel, c'est par étapes, mais oui, ça se fait, mais c'est très long.
C'est vrai qu'on parle souvent de pollution de l'air, pour les raisons que tout le monde comprend. On parle même dans ce podcast de pollution de l'espace, au niveau satellite. Est-ce que tu penses qu'on parle assez et qu'on vulgarise assez le problème de la pollution des sols, même à monsieur tout le monde, qui peut-être utilise encore un peu des substances chimiques pour les mauvaises herbes dans son jardin? Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de faire des initiatives là-dessus pour que chacun comprenne?
Clairement pas, parce qu'effectivement, je pense que si on faisait des prélèvements dans tous les potagers de tous les citoyens de France, on aurait de grosses surprises. Il y a certains, on disait tout à l'heure, le cultiver son petit potager, c'est hyper vertueux. Sauf qu'en fonction de ce qu'on met dans son potager, potentiellement, on ingurgite des doses de pesticides énormes et on ne le sait même pas.
Et même sur des jardins, tu vois, sans forcément avoir un potager, il y a des gens qui mettent aussi pour les mauvaises herbes certains produits, etc. Est-ce que ça peut impacter, même sur des échelles plus larges, les sols agricoles?
Bien sûr, c'est même sûr que ça impacte.
Ça se transmet en fait dans la terre.
Et alors, dans les sols et dans les eaux. Dans les eaux, on a eu là quelques polémiques, mais en fait, qui auraient dû émerger depuis très longtemps. Je pense que la majorité des eaux qu'on boit à tous les robinets en France contiennent des polluants qu'on ne mesure pas, parce qu'il y en a tellement qu'on ne mesure pas tout. Mais voilà, et ça, c'est la conséquence de dizaines et dizaines d'années d'exploitation malencontreuse de nos sols agricoles. Donc c'est
une forme de responsabilité individuelle, quoi, aussi.
Individuelle et collective, mais c'est sûr. Après, clairement, il ne faut pas non plus mettre trop la responsabilité sur l'individu.
Bien sûr.
Je pense que la majorité de la problématique vient de l'agriculture et pas juste du quidam dans son potager.
Continuer sur l'importance de vulgariser ces choses-là.
Mais oui, il faut se rendre compte que mettre des produits, de toute façon, c'est pas neutre.
On a parlé un petit peu de fèves et de comment vous fonctionnez. Donc, c'est une foncière qui récupère l'argent du grand public sous forme d'un produit d'investissement. On peut parler de produit d'investissement ou pas? Parce qu'il y a quand même un rendement.
Oui.
Il y a un rendement.
C'est un investissement. Après, c'est un produit d'investissement parce que c'est des titres d'une foncière. Donc, on peut dire...
Donc, c'est un produit d'investissement. Vous recrutez, vous, des futurs agriculteurs. Vous trouvez des fermes. Vous faites matcher les fermes des agriculteurs et vous accompagnez les agriculteurs dans le fait de produire le mieux possible tout en les accompagnant sur la distribution. Donc, de l'amont à l'aval de du cycle de vie du produit. Vous les accompagnez aussi sur la relation avec les distributeurs ou juste sur la transformation et après vous laissez se débrouiller?
Alors non, aujourd'hui on ne va pas encore jusque-là, mais en fait on va être très pragmatique.
Que vous pourriez demander une coopérative et négocier avec Carrefour?
Exactement, on pourrait un peu avoir ce rôle-là. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, il n'y a pas ce besoin, mais en tout cas on n'a pas assez d'agriculteurs pour le faire. Mais si demain il y a un intérêt à ce que nous on soit un médiateur, on ne veut pas être intermédiaire, ça c'est un point important, à se mettre entre l'agriculteur et son écosystème. On est vraiment en support, mais si nous on peut avoir un intérêt à porter d'une manière ou d'une autre, que ce soit via des outils ou via effectivement une implication plus directe du service à ces agriculteurs, c'est sûr, on le fera. Alors, juste pour corriger ce que tu dis, on ne recrute pas des porteurs de projet.
Ils arrivent vers vous.
On les qualifie.
Ouais.
Pour nous, on veut s'assurer qu'ils ont à la fois les compétences et la
et
formation.
Le bon mindset aussi,
et le bon mindset, exactement, pour reprendre une exploitation. Mais ce n'est pas les recrues, c'est eux, ils sont chefs d'entreprise, ils sont sur leur exploitation, quand on leur loue, et ils ont une option d'achat, c'est-à-dire qu'on leur
justement,
met en location.
Comment ça fonctionne, ça?
Ben, en fait, à partir du moment où ils sont installés, ils peuvent, à un horizon de 7 ans, décider de racheter ou
c'est
pas l'exploitation. C'est une sorte de crédit bail, voilà. Et sans obligation, donc à un moment, ils peuvent décider de devenir propriétaires. Et c'est quand même ultra sécurisant pour l'installer. Si ça marche pas, eh ben, il arrête, il va faire autre chose. Et nous, on trouvera une autre personne pour exploiter. Et si ça marche et qu'il a envie de devenir propriétaire de son outil de production, il le décide et il rachète.
Et donc, sur la foncière, donc demain, moi, je peux mettre de l'argent pour soutenir cet écosystème et pour diversifier mon patrimoine. Et je suis sûr d'avoir un rendement tous les mois.
Alors, ce n'est pas un rendement tous les mois. C'est un rendement au global. Nous, on ne verse pas de dividendes. C'est-à-dire que le particulier met de l'argent dans cette foncière. On ne lui garantit rien, mais en gros, il investit dans des terres agricoles qui, d'année
proche
en année...
Proche de chez lui ou...
Pardon ?
Proche de chez lui ou pas forcément ?
Alors non, on investit dans une foncière qui, elle, investit dans tout type d'exploitation.
National.
Voilà, c'est au niveau national. Donc, il investit dans un ensemble de fermes que nous, on va proposer à la foncière. Donc il investit des titres et donc cette CIR va percevoir des loyers de la part des agriculteurs en place qui vont être réinvestis dans d'autres fermes. Le but c'est pas de distribuer du dividende et par contre chaque année du coup le titre va se revaloriser parce que le prix des terres va avoir augmenté, parce que la foncière va avoir perçu des loyers, donc ces titres vont prendre de la valeur et au bout de quelques années quand le...
Donc c'est
le...
comme une SCPI.
Exactement, c'est une foncière.
Je ne touche pas de dividende. La SCPI, moi, mes SCPI, je récupère du dividende tous les mois.
Et là, non, il n'y a pas de versement de dividende.
Qui est automatiquement réinvesti. Donc, il n'y a pas d'impôt.
Non.
Sauf de l'impôt sur la plus-value lorsque je revends mes parts.
Voilà.
Et revendre les parts aujourd'hui, c'est simple ou pas? C'est liquide ou pas?
Non, ce n'est pas très liquide. C'est une exploitation agricole. Donc, en fait, on peut revendre ses parts soit parce qu'il y a de nouveaux entrants, soit parce que des agriculteurs rachètent des fermes. Aujourd'hui, on a 3 ans d'existence. Donc, on n'est pas encore arrivé à un moment où on a des agriculteurs qui veulent racheter les exploitations. Donc, on ne sait pas aujourd'hui vraiment mesurer dans quel...
À quel point ce sera liquide.
Voilà, à quel point ce sera liquide. On espère que ce
sera... Il n'y a personne qui a voulu sortir pour l'instant?
Non. De toute façon, la personne qui investit a une économie d'impôt sous réserve de détenir ses parts pendant 7 ans.
Donc, l'économie est de combien?
25%.
25% du capital investi.
Ouais.
Et vous faites une plus-value de combien à peu près tous les ans?
On estime que la rentabilité va être de 2 à 3% par an. 3%.
Okay, 3% par an. Il me semble, c'est ce que ton associé pitchait à Mathieu Stéphanie sur la martingale. Ok. Et donc là, tous nos auditeurs, s'ils veulent, ils vont sur le site de
Fèves. Ils vont sur le site de Fèves et ils peuvent investir de 500 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros, si ça leur dit. Et on a vraiment toute la palette d'investisseurs.
Pour 25% de déduction d'impôt, ce qui est pas mal.
25% avec un maximum, c'est plafonné, bien sûr.
Comme tout le temps.
Donc voilà, c'est plafonné à 40 000 euros d'investis, donc 10 000 euros d'économie. Mais
c'est pas mal, en vrai.
Ça augmente. Ouais. Du coup, on passe de 3% à 5-6% sur 7 ans avec cette économie d'impôt. Donc, elle est quand même très intéressante.
C'est quand même un placement qui est intéressant pour une petite part de son patrimoine. C'est pas un conseil en investissement. D'ailleurs, investir comporte des risques.
Ouais, tout à fait.
Pas l'oublier.
Mais c'est très bien de diversifier. Et puis, c'est l'actif agricole très difficilement accessible quand on est un investisseur lambda. Enfin, trouver une ferme ou des terres dans lesquelles investir, ça se fait pas mal, un peu plus sur les forêts ou les vignobles. Sur des exploitations agricoles, c'est très compliqué. Donc, c'est aussi un moyen voilà, de diversifier, d'être investi dans
l'agriculture. C'est qui vos acteurs de la... C'est quoi le persona des personnes qui investissent dans la foncière?
C'est très divers, mais je dirais qu'on en a trois grandes typologies. On a les petits investisseurs qui investissent 500, 1000, 2000 euros. Là, c'est quasiment du don. Ouais. Ils le font parce qu'ils veulent soutenir. Voilà, ils s'en fichent de leur rentabilité, ouais. Récupérer leurs sous. Ouais. On a ceux après qui sont là aussi pour l'optimisation fiscale. Donc, ils vont mettre 10, 20 000, 30 000 euros. Parce qu'ils recherchent ces 25%. Puis après, on a les très gros, que l'optimisation fiscale, de toute façon, ils ne l'ont pas. Eux, ils sont vraiment dans la diversification de leur portefeuille d'investissement. Parce que voilà, c'est de l'agricole, donc ça rentre bien dans leur philosophie. Et pour tous, leur première raison, c'est quand même le sens. Ouais. C'est parce que c'est l'agroécologie qui veulent soutenir la démarche. C'est leur point commun, et après, voilà, différentes...
Si vous allez faire des Girardins pour aller financer des outils de production à La Réunion ou dans les dom-tom français, faites aussi du Fèves, c'est pas mal.
Et si on veut s'investir encore plus, chacun au niveau individuel, comment on se forme aujourd'hui à toutes les techniques dont tu nous as parlé, permaculture, reboisement, etc. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'on peut se rapprocher de certains acteurs?
Alors nous, on a une plateforme qui s'appelle La Grange, qu'on met effectivement d'abord à disposition des futurs agriculteurs, en tout cas ceux qui ont un vrai projet agroécologique et qui ont comme vision de s'installer en agriculture. Mais n'importe qui, en fait, c'est un accès gratuit, il faut juste s'enregistrer. Et il y a effectivement énormément de ressources sur ce que c'est l'agroécologie, ce que c'est une conduite d'un atelier ovin, bovin, transformation fromagère ou autre en agroécologie. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs qui ont envie d'en savoir un peu plus, de se connecter.
Ouais, ce qu'on mange.
Et voilà, même sans vouloir s'installer a priori, ça permet de comprendre un peu mieux ce qui est faisable. Et puis après, si on veut aller plus loin, commence à avoir de plus en plus de formations, de BTS agricoles et autres qui abordent ces thématiques-là. Donc après, c'est déjà plus d'investissement.
Bien sûr.
Mais on peut. Puis il y a beaucoup de MOOC, plein de formations en ligne qui permettent aussi d'aborder ces sujets. Donc maintenant, Internet, c'est quand même génial. On trouve plein de choses.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'agroécologie ou pas? Ou on a bien fait le tour?
On a pas mal fait le tour, donc sauf si vous avez, des questions très spécifiques.
Moi, après, j'ai des questions de conclusion pour toi.
Juste une petite, un peu, justement, je serais curieux de connaître ta vision de ce que pourrait être, sous les 10 prochaines années, cette transition ou l'agriculture de demain. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Alors, comme je le disais, je pense qu'il y aura plusieurs formes d'agriculture qui vont cohabiter. Je pense qu'on gardera une agriculture productive. J'espère qu'on aura quand même une disparition de l'élevage intensif.
Donc uniquement sur le côté animal.
Ça n'a vraiment aucun intérêt pour la planète, pour l'humanité, pour les animaux eux-mêmes. Donc l'élevage restera, parce qu'il n'est pas non plus question de supprimer l'élevage, mais que l'élevage sera là avant tout comme un outil agronomique au service de l'agriculture. Donc, s'il y a de l'élevage, autant le valoriser au mieux, en produisant aussi du lait et de la viande, mais pas juste comme finalité.
C'est pas grave, ça arrive tout le temps.
Et donc, ça, c'est vraiment pour moi les deux grands aspects. Je pense aussi qu'on aura des fermes beaucoup plus diversifiées avec un retour vers de la production plus locale. Mais y compris sur la production aval, enfin, on parlait de réorganisation des coopératives. Moi, j'y crois beaucoup. J'espère qu'on va aller vers ça. Donc, remettre de la transformation sur, enfin, ou proche des exploitations et pour une alimentation locale. Alors, ce sera pas que du local parce qu'il y a des régions en France qui sont de toute façon spécialisées dans certains types de cultures. Quand on a que des prairies à la montagne, bah, de toute façon, on fait de l'élevage, quoi, et de la production de lait ou de fromage ou autre. Donc, il faut trouver des débouchés plus lointains. Mais en tout cas, relocaliser quand même cette agriculture-là. Et j'espère avoir beaucoup plus de professionnels de l'agriculture demain, donc beaucoup plus de
gens. Revaloriser
en tout cas,
secteur.
C'est comme ça que je le vois. Et des gens... enfin. Malheureusement, hein, il y a eu une grosse tendance dans ces dernières années où le métier d'agriculteur était très dévalorisé. Donc, en gros, les jeunes, c'est on dit la même chose pour les plombiers, les électriciens ou les maçons, mais aller dans ces filières-là, ceux qui n'étaient pas faits pour l'école et qui ne pouvaient pas faire autre chose. Je pense qu'il faut qu'on casse ça.
C'est assez sûr,
surtout
c'est
en agroécologie.
Hein,
sur l'agro-écologie, ouais, en plus, mais c'est ça. Enfin, en agroécologie, on a besoin de gens qui sont passionnés par ça. Et qui ont un certain niveau de formation pour permettre de comprendre tous ces enjeux. Donc voilà, j'espère qu'on va revoir aussi le mode de formation de l'agriculture pour ramener une plus grande diversité de jeunes, dont des jeunes très bien formés sur ces problématiques agricoles. Et donc voilà, on refasse de l'agriculture un vrai pilier la production française, mais pas juste en termes de KE exporté, enfin voilà, de chiffre d'affaires à l'export, quoi, mais aussi clairement de levier de transformation de nos sociétés vers quelque chose de plus vertueux.
On se rend compte que c'est un sujet qui est quand même éminemment politique et éminemment sociétal. Est-ce qu'il y a des grandes questions philosophiques, politiques, sociétales que tu te poses de temps à autre? Sur lequel tu n'as pas forcément de réponse.
J'en ai plein.
Oh ouais, on profite.
J'en ai plein. Alors, je ne sais pas si c'est philosophique, mais on a plein de questions qu'on se pose sur l'agroécologie et ce qui est vertueux ou pas. Là, il y a une des grandes thématiques, c'est la production d'énergie. Et elle a plein de facettes, mais l'agriculture est d'une part consommatrice d'énergie, mais aussi productrice d'énergie. Est-ce qu'on doit pousser dans l'agricole, la production de, par exemple, biométhane. Okay. Sachant qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans cette production-là. Mais qu'en gros, la production de biométhane est en concurrence de la production pour l'alimentation humaine. Est-ce qu'on doit pousser l'agrivoltaïsme, donc la mise de panneaux solaires dans les champs?
Poser la question. Vous mettez des panneaux solaires, des éoliennes, etc.
On met pas d'éoliennes parce que... parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la nuisance visuelle fait que voilà, il y a quand même beaucoup d'opposition sur les éoliennes, ce qu'on peut comprendre. Donc, on est plutôt favorable aux éoliennes en mer que sur terre. Les panneaux solaires, on pense que il faut généraliser, systématiser en toiture. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les champs? On a une approche très claire qui est, si c'est juste pour poser des panneaux au sol et faire qu'on fait que de la production d'énergie, ça n'a aucun intérêt, sauf pour les sols incultes où on peut faire rien d'autre. Okay, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de combiner à la fois production d'énergie solaire et agriculture? Et ça, on veut le tester.
Ça fait de l'ombre, c'est pas...
Ouais, mais donc dans certaines régions où il y a beaucoup d'ensoleillement, où on était... Il n'y a plus de pousses des cultures parce qu'il y a trop chaud. Ouais. On n'a plus d'humidité sur les sols. Le fait d'apporter de l'ombrage, alors ça peut être aussi via des arbres. Hein. Ouais. On pourrait le faire aussi par des arbres, qui est une manière de capter l'énergie solaire. Mais on ne peut pas nier qu'on a aussi besoin pour l'humanité de produire de l'énergie électrique. On dit, OK, l'énergie des arbres peut aussi être de l'énergie... de l'énergie solaire captée par des panneaux et apporter aussi ses bénéfices d'ombrage. Donc, pourquoi pas, si ça permet de mieux gérer l'agriculture sur ces parcelles, il ne faut peut-être pas se priver de ça. Alors, OK, c'est quand même C'est très industriel, c'est très tech, ouais. C'est de gros investissements. C'est des centrales solaires au sol qui sont sur, là, sur 30, 40, 50 ans. Donc, c'est pas neutre en termes d'impact. Donc, il y a plutôt intérêt de pas se planter. Mais c'est notre approche pragmatique. Et en tout cas, la mienne, de dire, bah, ouais, il faut pas balayer d'un revers de main parce que c'est l'agro-industrie, donc c'est mal. Et à un moment, si on veut avoir des véhicules électriques et plus brûler du charbon, du pétrole, ou du gaz, eh ben, il va falloir trouver des solutions. Donc, si on veut en plus pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires, on va vite être coincé. Et moi, je suis pas adepte du retour en arrière, de l'ultra sobriété subie. Il faut qu'on essaye quand même de trouver des moyens pour que la transition soit pas trop douloureuse. Et c'est peut-être un des moyens. Donc, voilà, on va regarder. Mais voilà, et ces questions-là, je pense qu'il faut avoir une vision claire sur l'agroécologie, être très volontariste, mais il ne faut pas non plus tomber dans le cliché et le côté ultra qui peut faire que, bah, qu'en fait, on se tire une balle dans le pied, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut aussi que la transition soit vivable.
Donc, il faut comprendre et mettre à son service ce dont on a besoin avec conscience.
Ouais. Et utiliser ce que la tech peut offrir de bien.
Voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Ça te va, Paul ?
Bah, moi, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça rejoint pas mal.
Plutôt bien.
Non, mais c'est bien, c'est qu'on trouve toujours un fil directeur autour de ça. Bah, même le débat autour des usages. C'est-à-dire que, de rien, les technologies dépendent avant tout de la manière dont on les utilise, dont on les appréhende et dont on les encadre. Et donc, à ce sujet-là, je pense que. On pourra trouver peut-être. Est-ce que tu aurais des personnes à nous recommander pour aller plus loin sur des sujets connexes liés à cet encadrement, que ce soit dans l'agroécologie ou autre?
Il y en a plein. Moi, j'adore. Bon, après, c'est très connu, hein, Jean Coffey. Moi, j'adore ce qu'il dit sur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il arrive à faire le lien entre un peu toutes les problématiques d'énergie, d'agriculture, d'industrie et autres. Et moi, j'adore ces approches qui sont pas mono-entrée, on va dire, ou mono-vision, mais qui essaye de regarder tout ça d'une manière holistique. Et c'est un peu écosystémique. Enfin, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la nature, hein. C'est que tout est interdépendant. Donc, moi, j'adore ces approches-là de manière générale. Parce que dès qu'on touche, ça impacte autre chose. Et donc, on est obligé d'avoir cette approche globale, pour pas faire n'importe quoi. Et si la solution était ultra simpliste même, ça se saurait. On n'est pas dans ce cas-là, et en particulier en agricole.
Eh ben écoute, merci beaucoup Simon, c'est un super épisode, hyper content de t'avoir reçu sur ce podcast.
Ravi d'avoir échangé avec vous.
Donc très très cool, un épisode toutes les semaines, donc à la semaine prochaine très chers auditeurs. Chaque dimanche une newsletter sur votre boîte mail où on décortique tous les sujets d'actualité, donc lisez-moi le lundi matin. Pour commencer la semaine, c'est toujours très cool avant le kick-off. Et à très vite. Au revoir.
À très vite, Simon.
Merci,
salut.
Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.